Direct en jeu, la radio insolite, en partenariat avec Charlotte Calmel chez Comdiff. J'ai intérêt à le dire parce qu'elle écoute quand je fais des choses. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas encore entendu Camille. Et Camille, est-ce un garçon? Est-ce une fille? Bonjour Camille.
Bonjour Alain.
C'est un garçon.
Merci de me recevoir. Eh oui.
Alors, Camille, c'est un touche-à-tout. Il fait tout. Il fait la cuisine, il passe l'aspirateur, il fait du repassage, il écrit, il met en scène, il joue. Comment est-ce qu'il faut te présenter, Camille ?
Je suis comédien avant tout. Et puis parce que j'ai eu envie de monter sur scène pour jouer des rôles qui me plaisaient vraiment, je me suis mis à écrire des spectacles. Et puis vu qu'au moment de l'écriture, je pense beaucoup à la mise en scène, je les ai mis en scène aussi. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, avec au départ cette envie de monter sur scène pour défendre des spectacles que j'avais vraiment très envie de défendre.
D'accord. Si on fait une marche arrière, qu'est-ce qui est passé ? C'est une révélation ? C'est dans le ventre de ta maman que tu t'es dit « je veux faire ça » ? C'est en assistant à un spectacle ? C'est en rencontrant un artiste ?
Ça s'est fait par petites touches. Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'étais ado au collège, parce que je, en événement, dans les événements familiaux, je reprenais des sketchs au moment du café et je faisais rire un peu tout le monde. Et on m'a dit tu devrais faire du théâtre. Donc je m'y suis mis quand j'avais 12 ou 13 ans et j'ai continué un peu toute ma vie. Et en arrivant à Paris, quand j'avais tout pile 20 ans pour mes études, je me suis mis à faire de l'improvisation théâtrale. Et j'en ai fait à très très haute dose, tellement qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais quasiment aussi souvent sur scène que certains amis qui, eux, vivaient de ce métier, quoi. Donc là, je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup de passer cette barrière. J'avais une facilité à l'époque, c'est que je travaillais en indépendant, donc j'ai pu adapter pendant plusieurs années mes différents emplois du temps pour faire en sorte de passer tout doucement du métier de développeur web à l'époque que je pratiquais vers le métier de comédien, auteur et metteur en scène.
Ah oui, c'est vraiment complètement différent là.
Oui.
Tu proposes cette année en Avignon deux spectacles. Alors déjà, il y en a qui trouvent que c'est difficile d'en faire un seul. Toi, carrément, tu te prends le luxe, t'en fais deux, dont un seul en scène quand même. C'est pas mal, c'est bien.
C'est pas mal. Je pense que je vais pas faire plus les prochaines années. Je pense que deux, c'est déjà très très bien.
D'accord. Alors, des spectacles qui sont assez originaux, parce qu'il y en a un dont on a déjà parlé qui s'appelle « Ceux qui restent ». C'est un spectacle sur la vie, la mort et l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Et puis un deuxième où carrément il y a, je crois, 20 personnages, mais t'es tout seul.
Ouais. Alors, il y a même une trentaine de personnages. Je crois que précisément, on est à 27 personnages.
Et tout augmente. Hein.
C'est une réécriture de l'Odyssée d'Homère. Ça s'appelle Odyssée. C'est une réécriture plutôt en mode comédie, même si l'Odyssée d'Ulysse est pas obligatoirement une histoire que drôle. Et c'est un spectacle dans lequel je suis tout seul. J'interprète tous les personnages. Ils sont une petite trentaine qui interagissent entre eux, se répondent. Donc je raconte toute l'Odyssée, le retour d'Ulysse après la guerre de Troie en 1h20, 1h25. Et c'est un spectacle qui a été écrit pour les adultes à l'origine, mais qui en fait les enfants accrochent très bien à partir de 8 ans. Donc c'est un spectacle qu'on peut venir entre amis, en famille, et qui fait sa quatrième participation au festival là, cette année.
Ah, moi j'avais demandé 247e participation au festival.
Ah oui, ben, par contre, on fêtera la 200e représentation le 20 juillet pendant le festival.
Ah, attention, excusez-moi du coup. Ouais. Bon, question est toute bête. Donc, autant l'Odyssée était tout seul en scène, alors que ceux qui restent, vous êtes plusieurs.
Oui.
Il y a une préférence ou
à l'origine, quand j'ai écrit Odyssée, je l'ai écrit dès le départ parce que j'avais l'intention de jouer tous les rôles. Et son avantage, c'est que c'est une comédie avec des personnages très marqués, donc c'était quelque chose qui se pliait bien au fait d'être seul en scène et d'interpréter tout le monde. Là, ce qui reste, on est sur une comédie dramatique, ça raconte l'histoire d'un homme qui accompagne sa mère malade en Suisse pour un suicide assisté et qui rentrera seul. Cette histoire est mise en parallèle avec une rencontre amoureuse qu'il fait, et les deux histoires se répondent un peu discrètement, quoi. Et c'est ça. y a quelqu'un qui jette des bouteilles juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous entendez.
Ah oui, non, mais j'ai entendu, mais bon, j'ai rien
Bon.
dit, mais bon.
Je sais plus trop où j'en étais. Oui, cette histoire, là, elle a une construction, un traitement, une mise en scène presque cinématographique, et ça nécessitait là d'avoir des acteurs qui jouent leur rôle et uniquement leur rôle, et de pas diluer tout le spectacle dans l'exercice un peu performance qui est de jouer tout seul tous les personnages. Voilà. Pour pouvoir avoir de la profondeur réellement dans le jeu, dans les émotions qui sont transmises, dans les relations entre chaque personnage, là c'était important qu'on soit cinq sur scène pour interpréter les sept personnages du spectacle, quoi.
D'accord. Bon, l'Odyssée, on connaît, c'est l'histoire d'Ulysse et tout. Qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce qui reste?
À l'origine, suite à un spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon en 2017, alors ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ce spectacle m'a beaucoup inspiré pour écrire ce qui reste. Alors c'est pas du tout un spectacle qui parlait de ça, c'était un spectacle qui se passait, qui s'appelait Papa, et qui se passait pendant une nuit dans un hôpital, dans une maternité, et se croisaient plusieurs personnages, dont un futur papa qui évoquait un peu ses souvenirs, comment avec sa compagne il s'était rencontré, et puis bah il avait un peu peur parce que l'accouchement se passait pas bien, et puis je sais pas, ça m'avait un peu inspiré. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce spectacle Papa par la compagnie Je suis ton père, et ben je l'ai joué plus tard, et un jour ils ont fait des auditions, et j'ai repris ce rôle-là. Donc c'était assez rigolo, l'impression de boucler une boucle. Mais ce jour-là, donc en 2017, je suis rentré dans mon petit appartement à Avignon, hein, que je louais pour le festival, et puis je me suis mis à écrire un spectacle qui évoquait qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus l'enfant de personne, quand on est devenu orphelin, qu'on a perdu nos deux parents, et que ben il y a personne. Plus personne sur cette terre qui nous considère comme son enfant. Et c'est quelque chose que j'ai vu chez des proches, chez des gens que je connais.
D'accord.
C'est des changements qui sont infimes, mais c'est des changements tout de même. Et j'avais envie d'explorer un petit peu ça. Donc j'ai mené des entretiens avec une petite dizaine de personnes qui ont perdu leurs deux parents. Et puis pendant un de ces entretiens, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion un petit peu anodine sur le décès d'un de ses parents d'une maladie longue et pénible, et qui a dit quelque chose du genre arrivé là, on essaie de soulager dans la limite de ce que le cadre légal permet. Et j'ai une petite ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux raconter. C'est qu'est-ce qui se passe quand on décide de sortir de ce cadre légal? Et là, effectivement, dans le cadre du spectacle, Annie, la mère, est malade, une maladie dégénérative qui n'est pas nommée d'ailleurs dans le spectacle. On laisse le public choisir la maladie qu'elle peut avoir. Et elle se sait condamnée. Elle veut pas partir dans les souffrances terribles que ça va impliquer. Donc, elle décide d'aller en Suisse, là où c'est légal de procéder à un suicide assisté. Et elle demande à son fils de l'accompagner.
C'est un vrai sujet d'actualité en ce moment.
Oui,
Vas-y.
C'est assez fou d'ailleurs, parce que, en plus, comme je disais tout à l'heure, l'écriture a commencé en juillet 2017. Donc, c'était une époque où moi, j'étais déjà un peu sensibilisé à ce sujet de la fin de vie, mais c'était pas encore vraiment un débat sociétal, hormis chez certains militants, pour ou contre d'ailleurs, qui à l'époque déjà travaillaient dessus. Mais c'est devenu depuis, au cours de l'écriture, et particulièrement depuis que j'ai terminé l'écriture, c'est devenu un sujet dont se sont emparés beaucoup d'acteurs politiques et sociétaux, et c'est aujourd'hui effectivement un sujet vraiment au cœur de beaucoup de débats et de discussions, quoi.
D'accord. Alors, le point positif de spectacle, c'est que c'est un spectacle qui parle d'amour, de tous les amours, ça c'est important,
Oui.
mais qui parle du début et de la fin, parce que bon, on est égaux à ce niveau-là et tout, et ça c'est hyper important. Ce sont les liens entre les parents, entre les amants en tant qu'humains, c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit que tu pouvais éventuellement, à la fin du spectacle, laisser la parole au public? Pour
Alors,
un
c'est pas
échange.
obligatoirement quelque chose à quoi j'ai pensé, mais figure-toi que c'est arrivé. On a fait une dizaine de représentations à Paris cet hiver, et on a eu à la fin du spectacle, pendant que je faisais un petit mot pour remercier le public et puis pour leur donner quelques informations, et il y a une ou deux personnes qui naturellement se sont exprimés, ont dit leur proximité avec le sujet, et c'était assez étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais surtout c'est assez émouvant. Et le public ressort du spectacle souvent très ému, très touché. Quand je dis ému, c'est pas ému au sens dévasté par une histoire triste et déchirante. Au contraire, c'est un spectacle qui va mêler tout ça, qui va mêler la joie d'un début de relation, la tendresse de souvenirs évoqués avec une mère, son départ, sa mort, et d'un autre côté, sa mort à ses propres, comment dire, ses propres conditions. C'est elle qui décide comment ça se passe, et ça se passe de la manière dont elle l'a décidé, ce qui, moi, je trouvais quelque chose d'assez beau. Voilà, donc tout ça est mêlé, et le public ressort effectivement de la salle avec toutes ces émotions entremêlées. Et souvent, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ça m'importe, souvent avec l'envie de discuter de ces sujets-là avec leurs proches. Et je pense que s'il y a une fonction que peut avoir ce spectacle, en tout cas je l'espère, c'est pousser des gens qui s'aiment à parler du sujet, plutôt que de le laisser sous le tapis parce que c'est confortable de pas en parler.
D'accord. Petite question insolite maintenant. Quand vous allez sur les podcasts de Direct en jeu, vous trouvez la présentation de Ce qui reste par Karine Vantalon. Mais Karine, malheureusement, ne sera pas présente en Avignon parce qu'elle a décidé de faire autre chose. Est-ce que c'est facile de changer comme ça d'artiste sur un rôle?
Alors non, c'est pas obligatoirement facile, mais déjà Karine nous a prévenu suffisamment tôt, très en amont du Festival d'Avignon, qu'elle ne pourrait pas être à nos côtés, ce qui nous a permis de recruter rapidement une comédienne avec laquelle on a commencé à travailler dès qu'on l'a choisie, et avec qui ça se passe super bien. En fait, l'enjeu quand on change de comédienne ou de comédien, effectivement, c'est de retrouver ce qui marchait bien avec la personne qu'on avait avant, et puis de créer d'autres nouvelles choses qui vont bien marcher aussi et qui seront issues du jeu, du caractère de la personne qu'on a recrutée. Donc, c'est un enjeu, mais là, en ce qui nous concerne, c'est un enjeu vraiment réussi. On travaille avec une comédienne qui s'appelle Muriel Michaud, qui donc reprend les rôles de Juliette et de Sylvie qu'interprétait Karine, et elle est vraiment super. Voilà, les répétitions se sont extrêmement bien passées, et elle apporte une couleur un peu différente au rôle, et qui me plaît beaucoup aussi.
D'accord. Bon, question gentille maintenant. Quand tu montes sur scène, tu es l'écrivain, tu le mets en scène ou tu es le comédien?
Je suis le
Question gentille.
comédien. C'est hyper important d'être uniquement le comédien. D'ailleurs, pendant le travail, ça a été un réel enjeu parce que il a fallu à un moment que je me débarrasse de ma casquette de metteur en scène.
Bah oui.
Je suis en plus, il se trouve que effectivement, moi, j'interprète le rôle d'Étienne, c'est-à-dire le rôle qui est un peu le pivot entre les deux histoires. Donc, je suis très présent sur scène, et à un moment, il fallait que j'arrête de me concentrer sur ce que faisaient les autres sur scène. Il fallait que je concentre sur ce que je faisais moi. Et heureusement, je suis extrêmement bien accompagné dans ce projet, puisque je suis assisté par Cécile Grenassia, qui est extrêmement douée à la direction d'acteurs, et qui a pris mon relais au moment où il a fallu que moi je lâche les rênes de la mise en scène, et que je me mette à jouer vraiment. Donc, quand je monte sur scène, effectivement, j'essaye de me concentrer uniquement sur ce que j'ai à faire, à jouer et à transmettre au public.
Quand on a déjà fait Avignon, qu'est-ce qu'on va chercher de plus?
J'ai pas compris le début de la question.
Quand on a déjà joué à Avignon,
Oui.
qu'est-ce qu'on va chercher de plus en 2023?
On va chercher, on va chercher une petite réussite avec le spectacle. Là, on parle de Odyssée, du coup. C'est-à-dire le fait qu'il ait déjà été représenté
Bah
à
écoute,
Avignon.
on peut parler aussi bien d'Odyssée, puis ceux qui restent, parce que bon, les deux ont leurs spécificités. Mais est-ce que c'est une consécration? Est-ce que c'est un passage incontournable, le fait d'être en Avignon avec ces deux spectacles?
Pour moi, c'est un moyen. Avignon, c'est un espace qui est très particulier parce que c'est le seul endroit où on peut arriver en n'étant absolument pas réputé, que personne ne nous connaît. Et si on a un spectacle qui réellement est travaillé, plaît au public, on peut réussir. À faire que ça marche, quoi. Avoir une salle remplie, avoir des professionnels qui viennent, qui achètent ensuite des dates de tournée. Et la création d'un spectacle, c'est un investissement. Et c'est grâce à ces dates de représentation en tournée qu'on va renflouer les investissements. Donc, en fait,
D'accord.
moi, je considère que au niveau où je joue, entre guillemets, en termes de production, c'est un passage obligé. Parce que y a que là qu'on va pouvoir faire connaître le spectacle auprès du plus de monde possible et des professionnels qui vont ensuite acheter des dates et faire que le reste de l'année, parce qu'Avignon c'est un mois, mais en fait c'est un mois qui a des conséquences sur les 2 années qui suivent en
Très
termes de date
juste.
de tournée.
Exact, très très juste, exactement. Ça, tu fais bien de le préciser, parce que c'est important quand même de
Mais
se.
d'ailleurs, souvent, aux gens qui connaissent pas du tout le milieu du spectacle, je leur exprime avec une comparaison qui est toute bête, en disant, imaginez que vous avez créé un produit innovant, que vous êtes dans le domaine de la sidérurgie, vous allez prendre un stand sur le Salon international de la sidérurgie, ça va durer 3 semaines, ça va vous coûter très cher, mais si votre produit est vraiment bon et innovant, vous aurez fait des prospects que vous allez pouvoir ensuite exploiter pour vendre votre produit. Ben, en fait, finalement, de manière un peu triviale, le Festival d'Avignon, c'est un équivalent, mais dans le milieu du spectacle, donc avec énormément de différences et énormément de spécificités du milieu du spectacle, mais finalement, c'est un peu les mêmes enjeux et les mêmes dynamiques.
D'accord. Où vont se jouer les deux spectacles?
Alors, Odyssée va se jouer à midi au théâtre du Grand Pavois. Chaque jour, sauf les lundis. Et ce qui reste se jouera à 19h35 au théâtre du Roi René, sauf les lundis aussi.
D'accord. Ah oui, donc ça te laisse du temps pour te reposer entre les deux
Oui,
spectacles.
j'ai vraiment fait attention à ce que les relâches soient synchronisées pour pouvoir avoir un peu de repos.
D'accord. Pour réserver, je suppose qu'il y a des sites internet spécifiques.
Il y a des sites internet spécifiques et puis les spectacles seront aussi sur la billetterie du festival Ticket Off. Donc vous aurez la possibilité de réserver soit en passant par les sites du Théâtre du Grand Pavois ou du Roi René et puis la billetterie Ticket Off, la billetterie officielle du festival.
Bah parfait. Bah écoute, moi je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour bien expliquer toute ta démarche et tout. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en une journée, on peut se faire plaisir à te voir deux fois sur scène. Donc ça,
Eh
c'est
oui.
très sympa.
Sauf les
Merci.
lundis.
Merci à toi. Oui, sauf le
Merci
lundi.
Alain.
Merci à toi.
Bonne fin de journée, à bientôt.
Au revoir.